une création.
Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Regarde, j'ai reçu ça hier, mais je suis tellement mignonne. Tu comprends pourquoi je fais la maline dans les bains? Déjà, petite, je faisais les sketchs.
Épisode 3. Olivia, une solitude assumée.
Je m'appelle Olivia, j'ai 40 ans, comme quoi on oublie. J'ai 40 ans cette année et j'habite à Paris. Je travaille dans la politique et je suis très investie dans mon travail. Ça a peut-être un lien avec ma solitude, justement. Voilà.
Je regarde la femme qui se tient devant moi. Olivia a les mêmes yeux pétillants que sur la vidéo d'elle enfant. La même joie de vivre. À l'époque, elle semblait déjà n'avoir peur de rien. Olivia est très jolie. Le genre de beauté qu'on remarque, qui attire. Regard intense, rouge à lèvres rouges. La voix cassée, sexy. Une femme ancrée qui ne regarde pas le sol, pas le ciel, mais droit devant. Qui trace sa route, seule, sans l'aide de personne. Belle, drôle, intelligente. Sur le papier, Olivia coche toutes les cases. Je déchire le papier. J'y fais passer la lumière. On est tous remplis de contradictions, d'angoisse, d'espoir. Olivia aussi. Je scrute son visage. Sous sa force, son rire, je décèle sa solitude.
Mon rapport à la solitude, avant de venir, j'ai pris quelques notes, notamment sur mon histoire. J'ai pas de frères et sœurs. J'ai pas de frères et sœurs et pour autant, j'ai jamais été une enfant seule. Je suis toujours allée chercher de quoi rompre cette solitude d'enfant unique auprès de famille, d'amis, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce que je reproduis aujourd'hui pour ne pas souffrir de ma solitude la plupart du temps, dirons-nous.
Est-ce que tu te sens seule des fois ou...
Oui, je me sens seule à différents moments, même quand on a plein d'amis, quand il s'agit de partir en vacances l'été. Tu fais quoi cet été? Je sais pas trop parce que je suis seule. Partir en vacances avec des amis en couple, c'est pas toujours l'idéal. Des amis qui ont des enfants, c'est pas toujours l'idéal non plus, parce que je n'ai pas d'enfants, on y reviendra peut-être. Donc j'ai aussi appris à finalement partir en vacances seule. Et c'est finalement une ressource, alors pas tous les jours. Quand on part une ou deux semaines toute seule, il y a des jours où c'est super parce qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut, de manger quand on veut, d'aller faire une expo ou pas, de rester à lire ou d'aller se promener où on veut. Mais il y a aussi plein de soirs, où, notamment les soirs, où c'est difficile de dîner toute seule, de pas avoir envie d'aller se coucher seule. Donc c'est, je dirais que mon rapport à la solitude, c'est 90% du temps ça va. Et puis il y a des 10% où ça va pas et où c'est difficile de porter tout toute seule aussi bien le choix des vacances que tout. Finalement, la solitude, c'est la liberté et à la fois c'est emprisonnant parce qu'on décide tout seul, sans personne à qui demander conseil.
Donc t'as pas d'amoureux?
Je n'ai pas d'amoureux depuis quelques années déjà. J'ai été en couple pendant 7 ans. Je n'ai pas d'amoureux. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est... je pense que ce n'est plus quelque chose que je subis. Ça devient presque un choix. Parfois, quand je me projette dans une histoire d'amour et de couple, je me dis, mais je vais perdre toute cette liberté de la solitude. Donc, c'est un peu contradictoire, je l'entends. Mais en tout cas... le fait de ne pas avoir d'amoureux pose cette question de départ en vacances, de ne pas avoir envie de rentrer chez soi non plus. C'est quelque chose de compliqué pour moi.
De rentrer chez toi ?
De rentrer chez moi le soir, que ce soit rentrer du travail, rentrer de vacances, rentrer d'une soirée avec les amis, etc. C'est compliqué. J'ai toujours, maintenant consciemment, mais besoin de prolonger la fête jusqu'au bout parce que rentrer chez soi et être seule chez soi, c'est un peu... ça, c'est angoissant. J'ai du mal à me coucher aussi. Trouver un lit vide, c'est quelque chose qui m'angoisse. Donc voilà, ça, c'est le bémol. Je pense, dans ces moments-là où voilà, on se sent vraiment seul. On est seul aussi. Enfin, je me sens seule quand je suis malade. Alors évidemment, j'ai tout un tas d'amis qui me soutiennent et qui sont disponibles pour moi et qui prennent des nouvelles. Mais malgré tout, quand on n'est pas bien, quand on a de la fièvre, quand on vient de se faire opérer, comme c'est le cas pour moi il y a quelques temps, là, on se rend compte qu'on est tout seul. Qu'on est tout seul à affronter la douleur, à affronter la fatigue, les coups de mou. Et ça, c'est effectivement parfois difficile.
Je n'ai jamais été seule comme Olivia. Je ne suis pas fille unique. J'ai une sœur aînée et un petit frère. J'ai un amoureux, une chienne. L'appartement n'est jamais vide quand je rentre le soir. Pourtant, la nuit, quand mon mari dort à côté de moi, que le silence prend toute la place, je trouve la solitude. Je n'allume pas la lumière, je reste dans l'obscurité. Cette solitude-là fige le temps. Elle n'est pas choisie, mais innée. Inébranlable, immuable. Le vide, l'absurde. Je pense, un jour je serai vieille, mon mari et ma chienne ne dormiront plus à côté. Un jour je devrai affronter cette solitude-là. C'est ce qu'Olivia a fait, à sa manière. Sous son pull, elle cache une petite cicatrice entre son nombril et son pubis.
Alors je me suis fait, là aussi c'est un lien évidemment avec la solitude, en tout cas ça vient confirmer finalement cette volonté ou non d'être seule, mais en tout cas cette volonté de ne pas me reproduire. J'ai décidé, il y a 2 ans maintenant, de me faire stériliser, comme on dit, de manière un peu triviale. J'ai subi une salpingectomie, ce qui veut dire que je ne pourrais pas avoir d'enfant, c'est un choix. Je ne veux pas d'enfant pour tout un tas de raisons, certainement liées aussi peut-être à mon histoire, je ne sais pas. En tout cas, à 40 ans, j'ai fait ce choix de valider le fait que je ne serai jamais mère. C'est quelque chose qui m'a soulagée. Après l'opération, j'étais vraiment soulagée de me dire que ce dossier était classé, entre guillemets. Et après l'opération, le retour à la maison, j'étais accompagnée par ma marraine, qui est un peu comme une sœur pour moi. Mais malgré tout, voilà, il y a un côté solitude à ce moment-là. Mais sur le choix de ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose qui a pu un peu bousculer mon entourage. Et puis c'est quelque chose qui pose question aussi sur l'avenir. On a parfois l'impression que les gens font des enfants pour ne pas se retrouver seuls pour leurs vieux jours. Et je suis tout à fait consciente que quand j'aurai 80, 90 ans, je me retrouverai toute seule. Mais là encore, je suis persuadée que j'aurai des amis, de la famille à mes côtés pour venir s'occuper de Tata Olivia quand elle ne pourra plus se déplacer.
Comment ça vient, genre d'idée, et pourquoi ? Enfin, c'est pas rien, quoi.
Je pense, comme toutes les femmes, eu une période de ma vie où j'avais envie d'avoir des enfants. À cette époque, j'étais en couple. Enfin, j'ai eu une période où j'ai eu envie d'avoir des enfants, et malgré tout, depuis que je suis en âge d'être maman, j'ai toujours eu peur de tomber enceinte. C'est quelque chose qui m'a toujours angoissée. Je suis capable de faire un test de grossesse même sans avoir eu de rapport depuis 3 mois. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours angoissée. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'un psychanalyste trouverait le fil à tirer sur ce sujet, mais ça m'a toujours angoissée. Et donc, j'aurais pas pris cette décision avant.
Tu veux dire...
Je l'aurais pas pris à 30 ans ou à 35 ans. De venir justement acter le fait que non, en fait, je ne veux pas d'enfant, je n'ai plus envie de prendre de contraception. Et donc, 40 ans, je trouvais que c'était l'âge idéal pour enlever cette angoisse. Et c'est, alors je le fais au moment où certaines de mes amies qui sont célibataires comme moi et qui ont le même âge décident de faire un enfant toute seule. Donc c'est des discussions parfois, pas animées, mais en tout cas pleines d'émotions, les unes comme les autres. Mais voilà, j'avais besoin d'enlever cette angoisse et ça fait un mois et demi que j'ai subi cette opération et je me sens, je ne vais pas dire délivrée, libérée, mais pas loin. Il y a quand même vraiment une sensation de soulagement de me dire que j'aurai plus jamais cette crainte et que voilà, le dossier est rangé.
Olivia fait le choix de ne jamais devenir mère. Je réfléchis à ce jamais. Il me fait l'effet d'un écran qui s'éteint. Il me rappelle mes soirées à essayer d'imaginer l'infini. Cette grande masse noire qui s'étend encore et encore. Jamais, c'est le contraire d'infini. Jamais, c'est la fin des possibles, la mort de quelque chose. Quand je regarde Olivia, je ressens tout le contraire. Je visualise sa cicatrice et je me demande comment, pourquoi. Comment on en arrive à demander à un médecin de nous enlever un organe sain? Comment réussir à dire jamais à seulement 40 ans?
Qu'est-ce qui te fait si peur d'être une mauvaise mère, de toi ne pas être... Qu'est-ce qui t'effraie tant, tu penses?
Ce qui m'effraie tant, mais justement, ça rejoint finalement la liberté dont je parlais dans le fait d'être seule. Moi, j'ai pas envie de porter la responsabilité d'une personne en plus sur cette planète. Je vais pas creuser les raisons écologiques, mais je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'il serait intéressant peut-être de lever le pied sur la reproduction. J'ai aussi pas du tout envie de me confronter à un enfant qui me dirait « Mais pourquoi tu m'as mis au monde dans ce monde avec toutes les questions de dérèglement climatique, de guerre, voilà. La politique qui nous tire vers des années un peu sombres de notre histoire. » Donc voilà, j'ai pas envie de porter cette responsabilité, j'ai pas envie finalement de me contraindre à avoir un rythme, à être obligée de peut-être mettre de côté ma carrière, mettre de côté mes envies de voyage. Voilà, un enfant c'est très certainement merveilleux, mais c'est aussi une... Je vais pas dire un poids, parce que ce serait quand même un peu fort. voilà, c'est un bout de liberté qui s'en va. Et je crois que je n'ai pas du tout envie de perdre cette liberté, absolument pas.
Ton entourage, tes parents, tout ça, comment ça s'est passé, l'annonce de...
Alors, l'annonce avec mes parents a été... je leur ai dit, j'ai vu le gynéco, j'arrête la pilule et je vais me faire enlever les trompes. Il n'y a pas eu trop de réactions. Pas trop de réactions, mes parents sont des gens compréhensifs qui ne m'ont jamais jugé sur mes choix, qui m'ont toujours accompagnée et qui n'ont jamais été hypocrites. C'est-à-dire que moi, je n'attendais pas d'eux un soutien incroyable, parce qu'ils ont eu des difficultés à m'avoir. Moi, je suis un enfant très désiré, né dans les années 80 avec différents traitements, etc. Donc pour eux, c'est la volonté d'avoir un enfant était complètement incroyable. Donc je suis évidemment... J'ai pris cette décision qui est à l'opposé de ce qu'ils ont vécu, eux. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent « c'est une excellente nouvelle, nous ne serons jamais grands-parents, c'est fantastique ». Donc on n'en a pas parlé sur le moment. On est resté sur vraiment du factuel, comment ça se passe concrètement. Et on en a parlé juste avant l'opération. Moi, j'avais besoin de leur dire que ma décision était mûrement réfléchie, que... J'espérais qu'ils n'étaient pas trop tristes de ne pas être grands-parents. Et en fait, ils m'ont répondu qu'ils savaient que les décisions que je prends, en général, je les réfléchis bien, et surtout une décision aussi radicale. Et que par ailleurs, pour eux, c'était le plus important, c'était que je sois heureuse. Être grands-parents, mais avoir une fille malheureuse ne les intéresse absolument pas. Et je trouve que j'ai des parents formidables parce que ça doit pas être facile pour eux, malgré tout. Quant aux réactions de mon entourage et de mes amis, les réactions ont été différentes. Étonnamment, ce n'est pas les mamans qui ne comprenaient pas ma décision. Et en revanche, j'ai effectivement quelques amis qui, je pense par bienveillance et pour être sûre que... Pour valider que j'étais sûre de mon choix, m'ont un peu poussée dans mes retranchements. Et ça a pu un peu... À la fois, ça m'a perturbée de me dire « Mais comment... vous pouvez avoir des doutes. Et à la fois, ce qui est chouette, c'est que à chaque fois, je me disais, j'ai jamais flanché. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi moi de reconfirmer mon choix. À aucun moment j'ai eu la voix qui tremble ou les larmes aux yeux sur des questions où on allait titiller mon histoire, la façon dont je suis venue au monde justement, la façon dont mes parents ont mis tout leur cœur et autres pour m'avoir. Donc c'est venu me conforter et c'est venu finalement, je me suis vraiment dit à diverses reprises, définitivement c'est sûr. Donc c'est chouette, mais les réactions étaient étonnantes en tout cas. Personne ne m'a dit « c'est une énorme connerie, tu ne devrais pas faire ça ». On m'a pas jugée. Il y a eu aussi une autre étape, j'ai acheté un appartement toute seule. Et ça, pour le coup, je me souviens que c'était un moment difficile de solitude, parce que moi, j'ai toujours... petite, je pensais qu'on achetait un pavillon en banlieue et un monospace et tout ça. Et puis finalement, c'est pas du tout les choix que j'ai fait. Et je me souviens qu'au moment de signer chez le notaire, ma mère m'avait fait une remarque qui était une blague, mais que j'ai très mal pris. Pourtant, je crois avoir beaucoup d'humour. Elle a dit « Demain, on va signer chez le notaire avec notre petite Tanguy. » Alors que bon, quand même, je ne suis plus chez mes parents depuis que j'ai 21 ans. Et donc, je l'ai assez mal pris. Et après, j'en ai parlé avec eux, pour le coup, juste avant d'aller chez le notaire, en disant « je l'ai super mal pris ». Et mon père m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit « mais non, ma fille, tu n'es pas Tanguy. Tu es au contraire une femme autonome, indépendante. Tu n'as eu besoin de personne. » Et finalement, je me rends compte que toutes ces étapes, acheter un appart toute seule, décider de ne pas avoir d'enfant et venir acter ce choix par une opération radicale, ça vient finalement confirmer mon envie de solitude, peut-être mon besoin de solitude. En tout cas, ça me permet de l'accepter. Je pense qu'aujourd'hui, j'accepte d'être seule. Et comme je le disais, c'est difficile 10% du temps. Tu vas me dire, oui, mais on rentre pas chez soi que 10% de l'année. Non, effectivement, on rentre chez soi tous les jours. Mais ça, c'est pas grave, ça se soigne. Et puis, est-ce que c'est... Je rentre pas chez moi en étant triste. Juste, je veux pas rentrer, je veux continuer la fête. Est-ce que c'est si grave que ça quand on est bien? Après, moi, ce qui me manque le plus dans la relation amoureuse en étant célibataire, c'est la tendresse. C'est quelqu'un qui me prend dans ses bras. C'est les petites attentions, le petit message pour savoir comment ça va, cette espèce de douceur, j'ai besoin d'un truc un peu moelleux sur lequel me reposer de temps en temps, et les amis sont là pour ça, et la famille est là pour ça aussi, mais c'est pas pareil. Parce que quand on a un petit coup de mou, on a des problèmes familiaux ou autres, on n'a pas non plus envie d'être le boulet... Moi, je n'ai jamais trouvé que mes copines étaient des boulets quand elles allaient pas bien. Mais en tout cas, je pense qu'on a toutes eu la sensation à un moment de se dire « Ah ben non, je vais quand même pas l'embêter avec ça. Je vais pas l'appeler là pour lui raconter que je suis complètement stressée, que j'ai besoin de... » Voilà. Ça, ça manque. La tendresse qui... C'est triste ce que je vais dire, mais même si toutes mes copines me prennent dans leurs bras régulièrement, et si ma famille le fait aussi, c'est pas la même chose. Et puis bon, je vais pas rentrer dans le cliché de la vieille fille à chat, mais j'ai pris un chat et ça, c'est quand même génial parce que quand je rentre chez moi aujourd'hui, je me fais engueuler. Quand je rentre chez moi tard le soir, je me fais engueuler par mon chat et mon chat vient se coucher avec moi. Donc ça ne remplace pas un amoureux, mais finalement... et finalement, je me rends compte que aujourd'hui, je prends tout ça comme une chance. En fait, j'ai fait, je crois, d'une difficulté... une force. Je l'ai apprivoisé, ma solitude, je pense. Mais c'était pas facile. Et c'est, encore une fois, parfois pas facile.
La plupart des gens passent leur vie à fuir leur solitude. Certains s'enferment dans des histoires sans amour. Ils soupirent, ne se tiennent pas par la main dans la rue, ne s'adressent pas la parole au restaurant. Olivia a décidé de faire autrement. Elle a appris à connaître sa solitude, à l'aimer, à l'écouter. Elle accepte de ne pas avoir d'homme dans sa vie. Elle ne sera jamais mère, c'est son choix. Tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas. j'ai face à moi une femme qui ne baisse pas le regard, qui pose les bonnes questions. Le sens de sa vie, elle n'attend pas de le trouver. C'est elle qui le donne.
Alors, vivre seul, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Quand on est seul, c'est toujours, toi, t'es dispo. Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que t'as à faire? Oui, t'as pas de mec qui t'attend, t'as pas d'enfant à aller chercher à l'école. Et c'est un piège dans lequel je me suis retrouvée, notamment professionnellement. Parce qu'en fait, effectivement, pas d'obligation. Donc, en plus, je suis beaucoup en télétravail. Donc, je dis oui tout le temps. À mes collègues qui ont des enfants, non mais laisse, c'est bon, je vais le faire. Et donc je me suis retrouvée à travailler jusqu'à pas d'heure, à travailler parfois le week-end. Alors est-ce que c'était aussi, enfin je ne le fais plus, hein, j'ai pris de grandes résolutions. C'était aussi peut-être pour remplir ces dimanches après-midi où on se sent un peu seul. Mais voilà, il y a ce côté, on est seul et donc on est dispo tout le temps. Donc il y a aussi... Au début où je me suis retrouvée à vivre seule, j'avais une tendance à remplir mon agenda. C'est-à-dire que donc, le remplir de boulot, donc de réunions diverses et variées, de déplacements, le week-end, de prévoir tout un tas de trucs. Il fallait absolument que j'aie un truc le vendredi soir, un truc le samedi soir, un truc le dimanche après-midi, pour jamais se retrouver tout seul. Me retrouver toute seule. Et finalement, on s'y perd, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on... On oublie de prendre du temps pour soi. Et donc, on va voir les copains, on part en week-end, etc. Et on s'oublie. Puis après, on apprend à dire non. Moi, j'ai appris à dire non au travail et à me dire que c'est pas parce que je peux travailler jusqu'à 22, 23 heures. Parce qu'en effet, personne ne me dit « viens manger ». Que je suis corvéable à merci et que je dois faire tout ce que tout le monde attend de moi.
Ça, c'est récent ou...
J'ai fait un petit burn-out en début d'été. Et justement, quand on regarde, on prend un peu de recul et qu'on prend le temps de prendre ce recul, on se dit, mais à quel moment je pense à moi, en fait? Je remplis ma vie de travail, de vie sociale. Et la partie sentimentale, elle n'existe pas. Donc, j'y mets dedans de la vie sociale et du travail. Mais quand est-ce que je prends le temps d'aller me balader, je prends le temps de m'asseoir dans le calme et de lire un bouquin, de faire du yoga, de faire une activité qui me plaît? Quand est-ce que finalement je profite de cette solitude? Et je pense qu'effectivement, j'arrive à un moment de ma vie où j'accepte ma solitude. Si jamais je rencontre quelqu'un demain qui a envie d'être avec moi tout le temps, à la fois c'est quelque chose dont je rêve, entre guillemets, d'avoir un amoureux qui vienne mettre un peu de paillettes dans ma vie. Et à la fois, je ne sais pas si j'aurai de la place pour lui. Aussi bien dans mon emploi du temps perso-pro que de ma vie avec mes amis. Je n'ai pas envie de changer mes habitudes. Je me dis... Mon appart est super grand, j'ai une chambre d'amis, mais je n'ai absolument pas la place de créer un tiroir à chaussettes ou à caleçons.
Prendre toute la place dans le lit, choisir sa déco, manger ce que l'on veut, à l'heure que l'on veut, avoir son rythme, ne se sentir obligé de rien, allumer des bougies, mettre sa musique, ne pas se disputer. Être célibataire, c'est tout ça aussi. Je ne l'ai jamais été plus d'un an. Une partie de moi le regrette. J'ai rencontré mon mari par hasard, à un salon littéraire. On s'est retrouvés assis côte à côte. À minuit, le soir même, nous étions amoureux. Mais si j'étais restée chez moi, où j'en serais aujourd'hui? Olivia me raconte ce que peut être le célibat. Ses histoires sans lendemain, le sexe sans amour, Tinder. Je l'écoute attentivement, comme une adolescente inexpérimentée. J'essaie d'imaginer quel célibataire j'aurais été.
Je dirais que ça fait 6-8 mois que je me dis mais ça n'a aucun sens, ces sites de rencontre. Ça m'empêche pas d'y retourner de temps en temps parce qu'on sait jamais, on pourrait trouver la perle rare. Force est de constater qu'à chaque fois c'est des perles, mais pas spécifiquement rares. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se mettre la pression, puis s'autoriser de temps en temps à à prendre du plaisir, même si il n'y a pas de lendemain. Alors évidemment, on peut très vite tomber dans un travers qui est « il n'y a jamais de lendemain ». Et donc, on peut facilement, hein, je pense, enchaîner les conquêtes d'un soir. Et ça, ça ne solutionne pas du tout la solitude, évidemment.
Toi, c'est ce que tu as fait ?
J'ai pu le faire, ouais, à une époque, d'enchaîner les rencarts Tinder. Alors, sans évidemment consommer à chaque fois, mais du coup, voilà, de rencontrer au maximum, parce que c'est facile. En plus, à Paris, c'est le champ des possibles. Non, mais parfois, de se dire, bah, c'est pas parce que... ce mec ne correspond pas à tous mes critères, parce qu'il est trop grand, parce que je préfère les bruns et qu'il est blond. Ça vaut le coup, parfois, d'essayer. À trop chercher l'amour et à rester seul, on se met tout un tas de critères. On a, je pense, toute une espèce de liste de cases à cocher. Alors, il y a des cases qui sont indispensable. Pour ma part, par exemple, la case être politiquement orienté à gauche est une, c'est un impondérable. Donc voilà, ça fait partie des trucs, c'est rédhibitoire, c'est comme ça. En revanche, si c'est très grand ou très petit, on peut toujours s'organiser. Et aujourd'hui, moi, je vais sur Tinder, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. C'est-à-dire qu'un peu comme quand on va, quand on fait les soldes sur Internet, on met plein d'articles dans son panier, mais c'est pas pour ça qu'on les achète. C'est une vision très commerciale de la chose, mais bon, c'est l'amour aujourd'hui sur Tinder, c'est ça.
Ça t'est arrivé, j'imagine, d'avoir un date, comme on dit, et de te sentir face à lui et seule.
C'est arrivé d'être face à un garçon qui était... j'aime beaucoup Jean-Pierre Bacri, mais Jean-Pierre Bacri, dans la vraie vie, en date, c'est particulier. C'est-à-dire que rien n'allait, tout était de la merde. Et vraiment, c'était... je me suis sentie très, très seule. Hein. J'ai déployé tout ce que j'avais pour... c'est de le faire rire, de parler de trucs qui... mais rien n'allait, tout était pourri. Ses amis étaient des cons, son boulot c'était de la merde, la vie n'avait aucun sens. Je pense que les premiers dates que j'ai faits, aussi pourris soient-ils, je m'obligeais toujours à rester un peu par politesse. Là, clairement, au bout de 20 minutes, je me dis « bon, écoute, voilà, moi, je vais y aller, en fait, parce que c'est un enfer. » Et il est parti en me disant que c'était vraiment une soirée de merde. Donc, bon, voilà. Donc, ouais, on se sent parfois un peu seul. Puis parfois, on rencontre des gens qui sont seuls comme nous et dans le même optique, pas forcément d'une rencontre amoureuse, mais finalement de partager... ce que c'est que d'être célibataire, donc on se partage nos anecdotes, on se partage aussi nos galères, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. En général, c'est des rencontres où on continue à échanger, ça débouche pas sur une histoire d'amour, mais ça peut être des jolies histoires d'amitié, parfois, qu'on arrive à créer en confrontant justement notre célibat et donc notre solitude. Non, plus sérieusement, je pense qu'on se met toutes des listes de critères et que parfois on laisse pas sa chance à des histoires qui pourraient être sympas en fait. Et on les voit pas parce qu'on est resté avec notre voile de liste. Donc ouais, je pense qu'on se met trop la pression et qu'on voit pas... on voit pas celui qui nous regarde et qui n'ose pas venir nous voir et qui n'est pas sur les applis de rencontre. Celui-là, on le voit pas parce qu'il... Il y a deux, trois cases qu'il ne coche pas et voilà. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais je...
Donc tu dis que tu ne cherches pas l'amour, mais là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a un petit peu d'espoir quand même qu'il soit juste à côté depuis le début, comme dans les films. Et...
Il ne faut pas qu'il ait très envie de s'installer chez moi, ni de vivre à deux. C'est ça, je ne sais pas du tout aujourd'hui, pour revenir sur la solitude, si j'ai envie de vivre à nouveau avec quelqu'un. Je ne crois pas avoir envie de quitter mon espace, j'ai envie de garder. Voilà. Donc il faudra, quand ça arrivera, il faudra trouver une solution qui convienne à tout le monde. Ça s'appelle les concessions et c'est le principe, me semble-t-il, de la vie de couple. Tu vois, par exemple, sous mes airs de solitaire guéri et qui l'assume, je rêve de me marier. Moi, l'engagement pour la vie, moi, j'y crois. Par exemple, je ne crois pas au polyamour. Je suis un peu vieux jeu là-dessus. Je me fais souvent charrier. Mais ouais, moi, j'ai envie de m'engager auprès de quelqu'un pour le reste de ma vie. Mais je pense qu'on peut être marié sans vivre ensemble et en restant encore un peu seul de temps en temps. Thank you.
on pourrait penser cette histoire triste. Parce qu'une femme intelligente et belle, on l'imagine avec un amoureux. On l'imagine vouloir des enfants. Une femme comme Olivia, ça perturbe, ça questionne, ça fait peur. On se dit, quel gâchis. On ne comprend pas sa radicalité. L'image d'une mère de famille rassure plus qu'une célibataire stérile. Mais ce n'est pas une image qui se tient face à moi. Olivia ne cherche pas à rassurer. Elle ne laisse personne décider à sa place. La stérilisation, c'était sa manière de dire « c'est moi qui commande ». Pas l'hypothétique amoureux, pas la nature, pas le désir des autres, pas la norme, pas la société. Olivia ne sera jamais mère. Cette solitude-là, elle l'a choisie. Ça n'empêche pas ses yeux de briller, de continuer à croire en l'amour. Je repense à la vidéo de la petite Olivia. Elle peut être fière de la femme qu'elle est devenue.
Étant donné que maintenant j'ai dompté ma solitude, je dirais, comment mieux vivre ces 10% du temps où la solitude me pèse ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois avec quelqu'un ces 10% du temps ? Est-ce que ne plus, enfin, rencontrer quelqu'un et ne plus être célibataire fera qu'en fait... Je sais, encore une fois, je pense que je suis pleine de certitude sur cette solitude et que j'ai envie de la garder ou pas. Et je pense qu'en fait, on peut absolument pas tout contrôler et qu'à un moment donné, je perdrai complètement le contrôle de tout ça et ce sera très certainement pour des moments de. Enfin, pour du bonheur incroyable. Voilà, peut-être que c'est ce qu'il faut que je me souhaite à moi-même, de perdre le contrôle.
Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Un grand merci à Olivia pour sa confiance. Si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et vous rendre sur le site de Blast, où vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue.
Une création. Blast.